J'écrirai des soleils, émission littéraire, sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 livres. Hold Up sur la Terre de Lucille Leclerc, édition Le Seuil, collection Reporter. On poursuivra avec La Terre et nous, regards et perspectives d'un écologue de Roland Albignac, édition Terre Vivante. Après, ce sera Bon gâteau tout simple, mais qui en jette, de Marie Tchoka, toujours Terre Vivante. On continuera avec « Pour en finir avec les pesticides » de Claude Aubert et François Veyré de Terre Vivante et on finira avec un beau livre « Je crée mes savons au naturel » écrit par Léane et Sylvain Chevalier, édition Terre Vivante. Hold Up sur la Terre, écrit par Lucille Leclerc, édition Le Seuil, collection Reporter. Lucille est venue chez moi pour parler de foncier dans la région PACA, pour la création de son livre sur ce thème-là. Ce fut un échange très intéressant et j'avoue que j'attendais avec impatience son livre. La démarche est très intéressante car les contournements des spéculateurs pour accéder au foncier est réel et s'accentue. Comme l'eau, la terre est devenue une richesse qui suscite de nombreuses convoitises et une grande crainte pour les générations futures. Ce livre explique les rouages de ce système délétère et le fonctionnement complexe de la SAFER, qui est un garant français pour protéger le foncier quand il est bien utilisé. Seulement la pression est grande, et les lois existantes ont leurs limites. Une vraie loi foncière ambitieuse serait nécessaire pour sécuriser le marché foncier, qui peut se dilapider à des sociétés non agricoles, dont seul l'intérêt économique prévaut. Changer de modèle agricole et défendre l'agriculture paysanne est aussi l'essence de ce livre, dont je vais vous lire des extraits. C'est un phénomène secret mais puissant qui transforme radicalement l'agriculture française, l'accaparement des terres. Naguère réservé aux pays du Sud, il se répand rapidement dans notre pays. De grandes entreprises achètent la terre par centaines d'hectares. Elles profitent des failles béantes de la législation que laissent perdurer le gouvernement et le Parlement. Ce livre, résultat d'une enquête au long cours et nourri de nombreux reportages, révèle cette mutation souterraine que l'on peut qualifier de hold-up. Un hold-up qui ne se traduit pas seulement par une concentration foncière toujours accrue, mais stimule une agriculture industrielle et chimique, visant une production maximale au détriment de la biodiversité. L'arrivée des grands propriétaires fonciers prolétarise aussi les travailleurs de la terre. Les paysans deviennent des sous-traitants et perdent toute autonomie. Un bouleversement inédit se déroule. Il signifie la fin de l'agriculture traditionnelle. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Loin de se contenter de brosser un sombre tableau, Lucille Leclerc propose des solutions simples, fondées sur l'écologie, la liberté des paysans et une maîtrise de la terre au service de l'intérêt de tous. Qui est Lucille Leclerc? Elle est journaliste. Elle travaille pour La Voix du Nord et contribue au monde diplomatique. Elle enseigne à l'École supérieure de journalisme à Lille. Une nouvelle guerre pour l'accès à la terre. Les terres agricoles couvrent 54% de la superficie de la France métropolitaine. Des champs, des talus, des collines, des chemins creux, un beau pays. Mais derrière une campagne en apparence paisible se livre une bataille sans précédent. Car depuis une dizaine d'années, la terre attire les grandes entreprises. Après avoir avalé la transformation du produit agricole et la distribution, elles investissent la production agricole elles-mêmes. Enseigne de la grande distribution, leader de l'agroalimentaire, du secteur pharmaceutique ou du secteur cosmétique. Ils sont de plus en plus nombreux à convoiter le patrimoine agricole. Nous ne disposons actuellement d'aucun chiffre pour mesurer cette réalité, mais les histoires inédites que nous allons raconter, mises bout à bout, témoignent de l'appropriation de milliers d'hectares en France par les grandes puissances industrielles. Une agriculture sans agriculteurs. Nous sommes dans le département des Alpes-Maritimes, non loin de Grasse, dans une campagne verdoyante qui donne sur la mer Méditerranée, la Siagne, irrigue de part et d'autre des fleurs qui poussent en quantité. Il donne son nom à la plaine. Il faut se tourner vers le nord, dos à la mer, pour observer les premiers contreforts des Alpes. La plaine n'est pas plus vaste que la surface de Paris. On y croise de nombreux randonneurs et cyclistes du dimanche. C'est dans cet endroit très fertile que la société Chanel possède des terres. Elle fait pousser des fleurs, quoi de plus chic. Depuis un pays baigné de soleil, elle affiche sur son compte Instagram ses stories dans les champs de Chanel, conquiert des milliers de followers. En toute saison, elle envoie des nouvelles nappes de couleurs qui s'étendent sur le ciel de la Roquette-sur-Siagne, village perché de 5000 habitants dans ce décor de rêve. Chanel sait recevoir. Même en mode champêtre, elle invite des clients fortunés et des influenceuses du monde entier. C'est le temps de la récolte. Avec un panier surmonté du sigle Chanel, on s'arrête un instant devant les pétales blancs. Selfie sous un immense ciel bleu, les chapeaux s'enfoncent dans les parcelles. On renverse la tête, selfie. Une cohorte de voiturettes de golf emmène les visiteurs d'un jour se balader dans les champs. Les postes circulent déjà à toute vitesse sur la toile, relayés par des journalistes et des stars de cinéma. Les camions foncent sur la distillerie avec les fleurs toutes coupées. Au village, elles embaument les ruelles d'odeurs fruitées légères, celles qui font les parfums de Chanel. Dans un flacon numéro 5, on trouve par exemple 12 fleurs de rose de mai. La fragrance que portait la fondatrice Coco Chanel fut un produit phare de l'entreprise dès ses débuts. Aujourd'hui, les fleurs figurent dans le top 5 des parfums les plus vendus au monde. Je rencontre un agriculteur du coin, il me raconte qu'avec 2 hectares de fleurs ici, l'équivalent de 3 terrains de football mis bout à bout, une famille vit bien. Il fait partie de 15 producteurs de fleurs du pays de Grasse. Quand je lui parle de Chanel, il est gêné. Depuis toujours, Chanel s'approvisionnait en fleurs chez les agriculteurs. Mais comme Fragonard, le célèbre parfumeur de Grasse, qui possède historiquement des propres champs de fleurs, Chanel a acheté des terres depuis 2018. En peu de temps, il est devenu le plus gros producteur, car il a acquis 10 hectares, soit un quart de la surface de production de fleurs. L'agriculteur laisse échapper sa colère contre ceux qui nous prennent notre métier. Son chien mordit le bas de son pantalon. L'homme à l'accent du sud ne veut pas témoigner à visage découvert et s'excuse. Il vend à des parfumeurs et ne veut pas avoir d'ennuis. Je comprendrai plus tard les problèmes causés par les achats de Chanel à la campagne et nous y reviendrons. Donc on voit un petit peu la couleur locale et la difficulté qu'ont les producteurs à continuer de vivre de leur travail sans avoir l'accaparement des terres de grosses sociétés privées, entre autres dans la parfumerie au niveau du 06. À leur création, il était prévu que la SAFER arbitre le marché foncier par le marché des entreprises. Mais en 60 ans, les fermes ont changé. Plus grandes, plus spécialisées, plus modernes, plus diverses. Elles ont vu leur forme juridique évoluer. Et aujourd'hui, de plus en plus, ont le statut d'une entreprise classique. Les SAFER, elles, sont restées sur un modèle ancien et ne peuvent intervenir lors d'une vente de société qu'en cas de cession totale des parts. Dès lors, la manœuvre est simple. Il suffit d'acquérir moins de 100% du capital d'une société agricole pour la contrôler, mais sans être soumis au droit de préemption. Emmanuel Yest revient à l'exemple de Rewar. Dans les années 2010, un couple d'agriculteurs, après avoir travaillé pendant 50 ans, se préparait à prendre leur retraite. Rewar a proposé d'acheter la ferme. Comment ? Par le rachat progressif de l'entreprise agricole. Les agriculteurs et le géant industriel sont tombés d'accord. Rewar était devenu leur associé. Il a racheté la majorité des parts, puis la totalité. La vente a paru comme un simple changement d'associé, indétectable, de l'extérieur. Emmanuel Yest est agacé. Quand la SAFER ne peut plus agir, que reste-t-il ? La vente ne fut pas examinée par l'Assemblée locale de la SAFER. La vente ne fut pas examinée par l'Assemblée locale de la SAFER, comme devrait en principe l'être toutes les ventes de foncier agricole. Mais tomba dans un vide juridique. De plus en plus d'hectares partent dans les mains de sociétés. C'est une dérive complète, poursuit Emmanuel Yest. Le groupe Rewar avait répété la manœuvre et ainsi acheté 6 fermes. Un virtuose de système. Ce n'est pas la faute des SAFER. Elles ont les lois contre elles. En conclut un élu du monde agricole. Le foncier est en train de nous échapper et c'est un vrai danger, plaide Emmanuel Yest dans un communiqué de presse. Ne plus réguler le foncier, c'est-à-dire se situer dans la configuration d'un marché totalement libre, c'est une porte ouverte aux excès, à la financiarisation et à la spéculation particulière, préjudiciable à l'installation de nouveaux agriculteurs. Nous voulons des fermes, pas des firmes. La fière inquiéta jusque dans les hautes sphères. Une équipe du ministère de l'Agriculture fut dépêchée sur place, donnant lieu, quelques semaines plus tard, à un rapport spécial, intitulé « Foncier agricole, accaparement ou investissement ». Enfin, on se rendu compte que la société Rewar n'était pas la seule à s'engouffrer dans les failles de la législation. 1 hectare sur 3 échappe aux affaires, estimait celle-ci. En 2017, la situation devient critique alors qu'il apparaît que le recours croissant à ce marché non contrôlé a commencé en début d'année 2010. Voilà, donc on voit aussi comment la SAFER ne peut pas appliquer des règles sur les sociétés qui permettraient de réguler ce foncier. Il y a aussi le moment où il y a les terres qui sont déclassées. On a le cas de figure à Pertuis avec des terres agricoles qui ont été déclassées en zone urbanisable à des fins pour des sociétés aussi. Là, c'est la société du maire de Pertuis qui vend des machines agricoles. Et donc, du coup, il y a plus de 80 hectares qui vont être urbanisés. Donc ça aussi, c'est déplorable. Des fois, la SAFER, elle est complètement impuissante par rapport à tout ça. Pourtant, c'est un bon régulateur pour que les terres restent agricoles. Voilà, franchement, ce livre, il est vraiment super. Il est hyper intéressant sur la question agricole et sur le foncier agricole. Ce qui est bien, c'est que c'est assez littéraire, comme vous avez pu voir, la tonalité, les témoignages. Et à la fois, c'est très technique. Donc, on a les éléments pour réfléchir sur la question foncière. Voilà, Lucile Leclerc, c'est toujours un plaisir de la lire et son dernier livre, Hold Up sur la Terre, est vraiment super. Je vous le conseille. Donc c'est Hold Up sur la Terre de Lucile Leclerc, édition Le Seuil, collection Reporter. La Terre et nous. Regard et perspective d'un écologue, Rolin Albignac, édition Terre Vivante. Ce livre est écrit par un chercheur, agronome, naturaliste, passionnant, Rolin Albignac. C'est un hommage à la Terre, avec ses forces et ses faiblesses. Ces dernières sont dues à un épuisement de ses ressources, notamment dû à l'homme, qui a accentué le réchauffement climatique et entraîne des tempêtes sans précédent. C'est un hymne à la beauté de la planète bleue, si belle et si diversifiée. Rolin Albignac, écologue, fait un récit complet sur l'histoire de l'humanité et du lien étroit qui nous unit à la Terre. Les photos sont magiques, magistrales, les couleurs sont magnifiques et donnent vraiment envie d'explorer le monde entier. Et ce livre aussi, il est vraiment très intéressant. Plus de 300 pages pour découvrir notre planète et les enjeux sur lesquels on est complètement impuissant face au dérèglement climatique. C'est un des plus beaux livres du début d'année. Je vous invite vraiment à le lire. Terre Vivante nous offre là un magnifique panorama de l'actualité climatique. Merci beaucoup à cette belle édition. Je n'aurai pas les mots aussi justes que l'auteur pour vous faire découvrir le sujet du livre. Je vais vous en lire des extraits en commençant par le sommaire pour vous donner un aperçu des sujets abordés. Comment fonctionne la vie sur Terre, de la naissance de notre planète à la prise de conscience de sa destruction par l'humanité? D'où venons-nous? L'émergence de la vie darwinienne, la naissance de la planète bleue, l'évolution de l'atmosphère, l'origine de la vie sur Terre, la grande diversification biologique depuis 1 milliard d'années. Relativisons notre existence dans ce grand bouillonnement biologique. Qui sommes-nous? L'homme parmi les êtres vivants. L'écologie en question, de la formation des espèces au fonctionnement des écosystèmes. Les mécanismes en action vers un équilibre dynamique. Où vivons-nous? L'homme et son milieu. Milieu primaire, milieu naturel, un point de sémantique. L'évaluation des ressources forestières, les différents types de forêts, les écosystèmes ouverts majeurs, les milieux continentaux extrêmes, les milieux coralliens. Qu'avons-nous fait? Le bilan. L'homme face aux problèmes environnementaux, l'industrialisation à tout va, l'essor industriel et la protection de la nature. Concilier écologie et développement, les étapes d'un long processus. Le développement durable et l'après-Rio, vers un autre monde d'organisation de la société. Après ça, c'était que la partie 1. Après, la partie 2, c'est quelle perspective pour l'humanité? Les approches environnementales à l'aune du développement durable, la gestion des milieux naturels, la protection de la biodiversité, la croissance de la population humaine, l'estimation des besoins humains, la gestion des déchets et la pollution, la consommation d'énergie, les maladies infectieuses émergentes, l'évolution de notre alimentation. Vers une agriculture durable, comment protéger les sols tout en nourrissant l'humanité? Préambule, agriculture intensive et dégradation des sols. Perspective, la protection des sols et la biodiversité en tant que ressource. La sélection végétale et animale. Progrès scientifique et questions éthiques. Conclusion générale vers un changement sociétal. Avancer dans les approches pratiques du développement durable. Adapter l'activité humaine au respect de l'environnement. S'appuyer sur la mobilisation citoyenne. Donc vous pouvez voir dans ce sommaire que c'est très complet et c'est vraiment une approche vraiment globale de comment sortir de l'impasse dans laquelle on est en train de s'entraîner avec l'intensification de l'agriculture et les industries qui empêchent du coup la préservation de l'environnement à des fins spéculatives aussi. Je vais vous lire maintenant la grande diversification biologique depuis 1 milliard d'années. La grande diversification biologique depuis 1 milliard d'années. Pendant plus de 2 milliards d'années, les végétaux et les animaux ont suivi sensiblement les mêmes pas de temps évolutifs. Cette évolution est à mettre en relatif avec plusieurs périodes de grande extinction biologique, à chaque fois suivie de nouvelles phases d'explosion biologique, qui permettent ainsi de créer d'autres formes de vie, mieux adaptées aux nouvelles conditions environnementales du moment. Comment expliquer une telle diversification biologique sur Terre ? Chaque étape de diversification se déroule en fait en plusieurs phases. Une phase d'extinction massive des espèces, souvent relativement rapide à l'échelle géologique, liée à des causes externes multiples, provenant du milieu de vie. Par exemple, le volcanisme terrestre, la chute d'astéroïdes ou les modifications physiques du milieu, comme la composition de l'eau ou de l'atmosphère. Tous ces éléments, qui interagissent le plus souvent, vont fortement perturber le climat du moment et provoquer une série de conséquences défavorables à l'équilibre biologique établi. Une phase de récupération, souvent plus longue, a lieu à partir des espèces survivantes, peu nombreuses, moins évoluées et donc plus adaptables vers un retour à de nouvelles conditions de vie. Une phase d'explosion biologique ou évolution radiative très active permet aux différentes nouvelles espèces mieux adaptées de recréer les conditions d'une nouvelle reconquête. Une phase de restauration pendant laquelle les espèces occupent au maximum l'espace libéré, vers un nouveau état d'équilibre biologique dynamique. La durée de cette dernière phase dépend de l'arrivée d'un nouveau déséquilibre majeur du milieu et d'une nouvelle phase d'extinction, plus ou moins importante. Il est classique de distinguer un total de 5 phases d'extinction massive depuis 500 millions d'années, mais il faut savoir qu'il y en a eu d'autres, notamment avant, moins importantes certes, mais qui témoignent d'une grande instabilité, des conditions de vie sur notre planète. Chaque phase d'extinction étant suivie de 3 phases plus ou moins importantes de récupération, d'explosion et de restauration biologique, les espèces végétales et animales ont pu progresser dans leur mode d'organisation et leur adaptation au niveau contraint du milieu. Pour que ce mécanisme fonctionne, il est indispensable qu'une partie du vivant subsiste. Ce sont en général les espèces les plus grandes, les moins évoluées et donc adaptées par mutations génétiques accélérées qui survivent. Ces adaptations demandent toutefois du temps afin de développer d'autres modes de vie. Après, il y a des petits schémas qui expliquent ce qu'on vient de comprendre et d'apprendre, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas forcément au niveau de la diversification biologique. On a aussi des belles photos, là, en parallèle, il y a une belle photo d'un écosystème de prairies alpines, qu'on voit une montagne avec une grande diversité florale, à plus de 2000 mètres d'altitude, et sa faible biomasse contribue relativement peu au cycle de photosynthétique de l'atmosphère. Voilà, vous pouvez voir que c'est quand même assez technique, mais c'est très intéressant, c'est un gros livre. Hein. Donc je disais qu'il avait plus de 300 pages, et c'est un grand format, quoi. Voilà, il est très complet. On va poursuivre du coup avec une autre présentation. C'est « Qui sommes-nous ? L'homme parmi les êtres vivants ?» L'écologie en question. Comme l'écrivait Albert Camus dans « L'homme révolté » en 1951, « Mal nommé, les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je suis très en phase avec ces propos. Un terme mal nommé ou mal défini peut conduire à des malentendus, parfois lourds de conséquences. Vous constaterez ici que tous les termes importants sont systématiquement définis dès le début de leur citation, de façon à préciser à chaque fois comment je les perçois, car de nombreuses acceptations circulent sur tous les termes liés à l'écologie et l'environnement. À titre d'exemple, prenons les termes d'écologie et d'écosystème. Leur origine a été établie par des scientifiques, mais il existe aujourd'hui à travers de multiples disciplines, en politique, dans l'industrie entre autres, et sont usés jusqu'à en être vidés de leur signification d'origine. Il en est de même pour de nombreux autres termes touchant à cette science. Biodiversité, biosphère, et je vous mets au défi d'en donner une signification exacte si vous n'êtes pas écologue. C'est pourquoi je prendrai le temps de donner la définition des termes utilisés dans cet ouvrage et de rappeler leur usage pour mes propos. On voit aussi en face du coup un propithèque de Véro et un homme en parfaite harmonie à Madagascar. Donc le propithèque de Véro, c'est un singe blanc, des grands yeux jaunes et il est un petit peu coloré sur le bout de la tête et on voit qu'il est sur un homme, donc un malgache, voilà. En dessous, il y a un petit écart où il y a marqué « écologue versus écologiste ». Je devrais normalement me nommer écologiste, mais dans ce cas, mon interlocuteur me répondrait sûrement « Ah, vous êtes donc un écolo ?» Et de là, toutes les confusions possibles. L'écologie scientifique ne doit pas être confondue avec l'écologisme ou l'environnementalisme, qui représentent plutôt des courants de pensée, de même que l'écologie politique ou sociale. Mais il est possible, voire important, d'aménager des passerelles entre ces différents courants animés, au bout du compte, par des préoccupations globales communes. Parler d'écologie au sens scientifique du terme nécessite de s'approprier un certain nombre de concepts de base pour envisager cette thématique. Dans toutes ses acceptations et sa complexité, il ne s'agit cependant pas ici d'en présenter un tableau exhaustif et incompréhensible pour un lecteur non spécialiste, mais plutôt de trouver, comme je l'espère, un juste équilibre entre une information et des connaissances suffisantes à la compréhension de mécanismes de fonctionnement. L'écologie, science de l'environnement, étudie deux grands ensembles, les êtres vivants, la biocénose, et le milieu de vie qui l'héberge, le biotope. Le tout forme l'écosystème, c'est-à-dire une communauté biologique dans son environnement. L'écologie est une science globaliste, intégratrice, qui étudie non seulement chaque élément dans ses rapports avec les autres, mais aussi l'évolution de ses rapports selon les modifications imposées par le milieu et les autres populations, animaux et végétaux. Ces rapports sont décrits de plus en plus jusqu'au niveau le plus global. Ces niveaux vont de la biologie moléculaire à la biologie cellulaire et la biologie des organismes jusqu'aux populations, aux peuplements et aux écosystèmes. Et là, on voit une rizière sur les hautes terres de Madagascar. C'est du coup des terres malgaches et donc c'est de toutes les couleurs. Là, il y a du jaune, vert. Pour être en accord avec le développement durable, l'aménagement de cette région demande des recherches environnementales diversifiées. Dans le cadre d'une approche systémique basée sur les études de terrain réalisées avec les populations locales concernées. Voilà, à chaque fois il illustre ses propos par de très belles photos. On a la page qui suit aussi avec des hippopotames dans un écosystème humide avec un genre de coucher de soleil, c'est au Kenya. C'est magnifique. Voilà, c'est un très beau livre que je vous invite à lire. Et on va terminer avec le volet écologique aussi de ce livre. Donc, parce qu'il y a aussi le bilan face aux problèmes environnementaux et l'industrialisation à tout va, je vais quand même vous en lire un petit extrait avant pour que vous compreniez bien quels sont les enjeux aussi au niveau des dérèglements climatiques. Les grandes découvertes de la motorisation à vapeur thermique puis de l'électricité, pour ne citer qu'elles, ont permis une première vague de développement industriel dès la fin du XVIe siècle, puis au XVIIIe siècle, mais surtout dans le courant du XXe siècle. Au cours de la première moitié du XXe siècle, l'industrialisation n'a fait que s'amplifier. Propulsée par le boom des progrès techniques, l'accès au charbon a lancé la carbochimie en Europe et aux États-Unis dès la fin du XVIIe siècle. D'abord pour brûler et fondre le minerai de fer, pour fabriquer la fonte, l'acier et bien d'autres matériaux. Le charbon géologique remplace alors rapidement le charbon de bois. La métallurgie devient synonyme de hauts fourneaux, de laminoirs, puis de la recherche industrielle d'alliages spéciaux. Tout grand consommateur de ressources minières du sol et d'énergie à bas coût. Enfin, s'inspirant de la carbochimie, l'accès au pétrole a lancé la pétrochimie aux États-Unis dans les années 1920, puis au Royaume-Uni et en Europe, et enfin en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, dans de moindres proportions. L'exploitation des hydrocarbures est devenue l'un des piliers de l'économie industrielle. Les deux guerres mondiales ont aussi probablement contribué à accélérer ce processus industriel, avec la production massive de matériel et de munitions. On a ensuite bénéficié la période des Trente Glorieuses. Le pétrole fournit aussi Rapidement, la quasi-totalité des carburants liquides, fioul, gasoil, kérosène, essence. La pétrochimie se développe et produit notamment des plastiques, des engrais, des textiles, des détergents de synthèse. Le monde devient de plus en plus dépendant de cette industrie, elle-même dépendante des ressources fossiles. Les besoins en ressources naturelles et fossiles de toutes sortes se développent ainsi. Ces spectaculaires couchers de soleil sur des éoliennes, un des symboles de la transition énergétique, les efforts produits pour s'écarter des énergies fossiles seront-ils suffisants pour contrer les impacts dévastateurs de l'homme sur l'environnement? Voilà, il ouvre une porte, savoir si l'énergie renouvelable pourrait nous sauver de l'impasse du tout nucléaire. Manière exponentielle de la production électrique augmente également rapidement. Les crises économiques ne constituent pas encore un réel frein à cet emballement qui ne touche pas encore la majorité du monde. La pétrochimie devient au niveau mondial le troisième consommateur de pétrole, après le secteur de l'industrie et du transport. La première prise de conscience des impacts négatifs de cette industrialisation sur les écosystèmes naturels a commencé à la fin du XIXe siècle. On décide alors de protéger certaines espèces sauvages, les activités humaines, en créant des zones réglementées. Voilà, donc ça c'était sur l'essor industriel et la protection de la nature. Et donc maintenant on va terminer avec un volet sur l'environnement et sur sa protection. Perspective, limiter les impacts de l'homme sur la planète. L'activité de l'homme est la cause majeure de la destruction des milieux naturels. Directement ou indirectement, il nous faut rappeler ici que les milieux naturels n'ont aucunement besoin de l'homme pour vivre. L'objectif de beaucoup d'entre nous est donc d'obtenir, dans un proche avenir, des engagements réels pour un arrêt total de ces destructions massives de milieux primaires et naturels. Comment valoriser la biodiversité? En 1992, à Rio, c'est le développement durable qui semble être la solution, car il propose de concilier deux types d'intérêts divergents, l'exploitation de la protection de la biodiversité spécifique, comme nous l'avons vu depuis bientôt 30 ans. Ce concept de développement durable peine à atteindre ses objectifs. À cela, d'évoquer ici l'ambiguïté entre l'objectif de croissance verte et la marchandisation de la biodiversité qu'il faudrait plutôt considérer comme un bien patrimonial universel. La brevetabilité de la biodiversité entraîne un droit exclusif de l'inventeur et une obligation de rémunération pour les licences d'exploitation, sans contrepartie pour les pays d'origine et de l'espèce végétale ou animale exploitée. À ce titre, une analyse intéressante est proposée par Georges Virasamy. La marchandisation de la biodiversité pose le problème de savoir comment protéger la nature tout en créant un marché de la biodiversité. Cela semble assez facile à concilier sur le plan technique, par des approches de développement durable. Il en est autrement avec les règles de la brevetabilité qui suppriment en bonne partie le principe de la concurrence, en donnant l'exclusivité du droit d'un brevet obtenu par la Convention sur la diversité biologique, à la suite de l'innovation enregistrée comme un droit de propriété industrielle. Cette démarche peut ainsi aboutir à la désacralisation. Il en est autrement avec les règles de brevetabilité qui suppriment en bonne partie le principe de la concurrence, en donnant l'exclusivité du droit d'un brevet obtenu par la Convention sur la diversité biologique, à la suite de l'innovation enregistrée comme un droit de propriété industrielle. Cette démarche peut ainsi aboutir à désacraliser la biodiversité qui devient un vecteur de profit potentiel comme bien d'autres. De l'usage des plantes médicinales. Une plante médicinale est une plante utilisée pour ses propriétés particulières, bénéfiques pour la santé humaine ou animale. Le plus souvent, il s'agit d'une partie de la plante, rhizome, bulbe, racine, partie aérienne. Différentes parties d'une même plante peuvent avoir des utilisations différentes. Des plantes ayant des propriétés médicamenteuses peuvent avoir également des usages alimentaires ou condimentaires, ou encore à servir de la préparation de boissons. Selon l'OMS, 14 à 28% des plantes du monde sont répertoriées comme ayant un usage médicinal. 3 à 5% des patients de ce pays, des pays développés et 80% des populations rurales. Les pays en développement utiliseraient des plantes médicinales comme traitement principal. Ces plantes sont utilisées pour leurs composés. Les limites de la propriété industrielle. Le titre de propriété industrielle confère à son titulaire un monopole d'exploitation sur l'invention brevetée. Il faudrait toutefois pouvoir relativiser ce genre d'exclusivité. La pérennité d'une invention peut-elle être limite à l'organisme que les moyens en déposent des brevets? Cette notion de propriété pose bien des questions en termes d'équité. Un exemple des limites relatives à la propriété industrielle a été vécue à Rio en 1992. La question portait sur l'usage des plantes médicinales et des pays détenteurs de ces plantes endémiques aux pays concernés. L'idée était de proposer le versement d'un droit de royalties aux pays détenteurs des espèces impliquées, versement réalisé par les laboratoires et des recherches détenteurs de brevets industriels concernant les plantes. Finalement, cette démarche a totalement été rejetée par les laboratoires, qui ont immédiatement invoqué le droit de la propriété industrielle, évitant ainsi toute forme de discussion sur ce sujet et aboutissant à l'impossibilité de trouver le moindre compromis. Voilà, le piège des brevets. Et du coup, aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus utiliser leurs plantes localement. Et on brevette tout. Ça devient vraiment une catastrophe. C'est pareil pour les semences. Voilà. Donc, du coup, là, c'était les limites des impacts de l'homme sur la planète et le problème des brevets. Voilà, ce livre aborde plein de sujets et comme vous avez vu, il va vraiment en profondeur sur les questions. Et donc, du coup, il est assez intéressant pour ça. Ça donne beaucoup d'éléments de précision et de ça aussi, ça évoque des questionnements, comment y répondre pour trouver des solutions. Donc, moi, je trouve que ce livre très intéressant, très complet. Il travaille aussi sur l'estimation des besoins humains, prendre plus de recul face aux besoins imposés par les sociétés industrielles, voilà, parce qu'on se fait rattraper par celles-ci. Donc ce livre est vraiment génial, il est très beau, très coloré, avec des magnifiques photos, plein de schémas, et je vous invite à le lire, c'est vraiment un très beau livre. La Terre et nous, un beau livre pour nous faire aimer la Terre et nous inviter à la protéger. C'est écrit par Roland Albignac, qui est un chercheur en biologie et en écologie. C'est édition Terre Vivante.
Ne m'oublie pas sur la porte au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond d'un tiroir rouillé ou dans un vieux cahier. Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots. Ne m'oublie pas quand tu touches une autre avec ta peau. Ne m'oublie pas ailleurs. Les idées traînent dans la semaine. Moi, je n'insiste pas, je te connais par cœur, et j'entends le chant des sirènes. Moi, je dis ça comme ça, fais pas comme le facteur. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas sur la ligne 12 du métro. Ne m'oublie pas sur la pelouse en l'honneur d'un râteau. Ne m'oublie pas enfin dans la lumière face au destin. Ne m'oublie pas à l'époque où je n'existe plus.
Maintenant, on va partir un peu avec un sujet plus léger que les problèmes écologiques qui peuvent aussi être assez stressants pour les générations futures et pour nous qui avons fait des enfants. Voilà, donc du coup là maintenant on va partir avec Bon gâteau, tout simple, mais qui en jette. C'est écrit par Marie Tchoka, créatrice et photographe culinaire, qui partage sa passion pour une cuisine bio, saine et gourmande. C'est édition Terre Vivante. On est tous un peu gourmands, surtout à l'heure du goûter, et pour faire un bel anniversaire. Ce livre est une proposition pour combler vos convives, au niveau gustatif mais aussi visuel, tout en utilisant des ingrédients nobles et bons pour la planète et pour la santé. Vous connaissez sûrement Marie Tchoka, une écrivaine spécialisée dans la pâtisserie bio et bonne. Elle a écrit beaucoup de livres sur ce thème-là. Ce livre est organisé intelligemment, sous forme de saisonnalité. Au printemps et en hiver, on n'a pas les mêmes ingrédients proposés par Mère Nature, alors autant en profiter quand c'est la bonne saison. 40 gâteaux de saison, délicieux et très sains, à la portée de tous, que l'on soit pâtissier émérité ou simple gourmand par la vue de ces délices alléchés. La vie en rose, rhubarbe à papa, fleurs de fraises, ode à l'automne, nuages de crème, fleurs de frangipanier au cœur de la forêt. Des recettes pour les petites et les grandes occasions, repas en famille ou entre amis, fêtes des mères ou des pères, Pâques, Noël, avec des propositions de décoration faciles, facultatives mais qui subliment, mais qui permettent de transformer en un tour de main un gâteau tout simple, en un sublime dessert à la présentation vraiment épatante. Voilà, Terre Vivante, vous le connaissez sûrement, ça fait depuis 40 ans qu'elle édite, et c'est une scope, elle édite des livres et elle fait aussi du jardin Avec un magazine Les 4 saisons, elle vous invite à entretenir aussi votre jardin à vous. Je vais maintenant vous proposer des petites recettes. Cappuccino, nid de Pâques, choco café. Côté dessert, on est parfois un peu démuni quand Pâques tombe trop tôt. Pour que les premiers fruits de printemps viennent égayer les étals, alors que par ailleurs, les fruits d'hiver ne sont pas au top de leur forme. Mais voici un gâteau qui règle la question. Pas de fruits hors saison, mais une délicieuse crème au parfum de cappuccino. Vous pouvez même vous lancer dans la confection de piou-piou en pâte d'amande maison. Ça amusera toute la maisonnée. Pour la génoise au cacao, 300 g de farine T10, T110, 30 g de cacao amer, une grosse pincée de fleur de sel, 2 sachets de sucre vanillé, un sachet de poudre à lever, 165 g de sucre de coco, 33 cl de lait de soja vanille, 5 cl d'huile de tournesol désodorisée, 5 cl de vinaigre de cidre. Pour la ganache montée rhum chocolat, 100 g de chocolat à 70%, 20 cl de crème de coco, une cuillère à soupe de rhum ambré. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'alcool, moi je le ferai sans alcool. Un sachet de sucre vanillé. Pour la crème cappuccino, 40 cl de crème de coco bien froide, un expresso très serré, 60 g de sucre de coco, un sachet de sucre vanillé, un peu de cacao pour saupoudrer. Pour le sirop, un expresso bien serré, une cuillère à soupe de sirop d'agave et 3 cuillères à soupe de rhum, 3 cuillères à soupe d'eau. C'est un beau gâteau de Pâques. Pâques va arriver très vite. Donc ça vaut le coup d'essayer. Donc on commence par la génoise. La veille ou quelques heures auparavant, préchauffez le four à 180 degrés. En chaleur tournante, huilez un moule à savarin de 23 cm de diamètre environ. Mélangez dans un saladier la farine, le cacao, le sel, le sucre vanillé, la poudre à lever et le sucre de coco. Faire un puits, verser le lait de soja, l'huile et le vinaigre de cidre, puis mélanger juste ce qu'il faut pour obtenir une pâte homogène, sans trop insister. Versez dans le moule, égalisez en fournée pour 30 minutes. Ganache au chocolat. À feu très doux, sans cesser de fouetter, faire fondre dans une casserole tous les ingrédients de la ganache. Crème cappuccino, mélanger la crème de coco, l'expresso, le sucre de coco et le sucre vanillé dans le bol d'un robot, puis tout mettre au congélateur pendant 10 minutes, le temps que le bol et la crème soient bien froids. Fouettez ensuite tout au robot en commençant doucement, puis en augmentant petit à petit la vitesse des fouets jusqu'à obtenir une chantilly bien ferme. Jusqu'au lendemain, mettez cette crème cappuccino ainsi que la ganache au réfrigérateur. Ne pas oublier de bien les couvrir. Il y a aussi un lien avec le tuto vidéo des poussins en plus. Voilà. Donc du coup, ça a l'air très appétissant. C'est un beau gâteau, le cappuccino. C'est pas fini, hein. Après il faut faire le sirop, mélanger tous les ingrédients du sirop, puis imbiber le gâteau à la sortie du four, cuillère après cuillère, couvrir et laisser à la température ambiante jusqu'au lendemain. Le lendemain, démouler le gâteau, fouetter la ganache au robot, batteur plat, puis fouet pour la monter, c'est-à-dire lui donner une texture plus souple, crémeuse et légère, aérée. Sans trop les mélanger, mettre les deux préparations ganache chocolat et chantilly café dans une grande poche à douille ou dans une poche à douille double, voir photo ci-contre en bas à gauche, puis en recouvrir le gâteau. On peut utiliser un plateau tournant, c'est tout simple, en s'aidant ensuite d'une fourchette pour créer des reliefs du nid. Mettre le restant de crème au fond du plat, dans le creux et saupoudrer légèrement le gâteau. Pour la déco, ornez le gâteau des fleurs non toxiques, ici des fleurs de pommier et de cerisier, et vous passez à la confection de poussins en pâte d'amande. Nota, pour teinter la pâte d'amande blanche en jaune, j'ai utilisé un peu de curcuma et ajouté quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour camoufler le parfum un peu spécial. La pâte d'amande brune a été teintée avec un peu de cacao. Voilà, il donne vraiment envie, il est magnifique. Et en plus, on a plein de petites photos qui accompagnent cette création pour nous orienter. Voilà. Donc après, je vais vous lire un autre gâteau qui a l'air intéressant et qui est de saison hivernale, comme nous sommes actuellement. Nous ne sommes pas encore au printemps, parce que le précédent gâteau, c'était le gâteau printemps. Bon, il a aussi c'est aussi une recette qu'on peut faire en hiver, c'est pour ça que je vous l'ai faite. Mais c'était sur le thème de Pâques, ce qui vous permettait d'anticiper Pâques. On va changer du coup du chocolat, et je vais vous proposer la fleur de frangipanier, pour changer un peu de la galette. 15 janvier, l'heure est grave, déjà votre estomac se met en accordéon, rien qu'à l'idée d'ingurgiter la moindre part de galette de frangipane, toute suintante de beurre chaud. Mais il vous faut encore, avant la fin du mois, tirer les rois avec vos neveux, tontons, Gégé, le club de judo, vos collègues de bureau, l'amicale des joyeuses des jeux, de trompe en cuivre, la ligue des défenses du grès bupé, ou que sais-je. Plutôt que de sauter dans le premier avion pour le Groenland, histoire de tenter d'échapper à tout ça, en plus méfiez-vous. Qui vous dit qu'il ne fête pas l'épiphanie aussi? J'ai une solution beaucoup plus simple. Proposez un gâteau qui ait le parfum de frangipane et même un chouïa de beurre, mais qui soit léger, léger, comme une fleur de frangipanier. À moi qui n'aime pas le gâteau à frangipane, c'est une bonne idée, ça. Tiens, on se serait presque tenté de prolonger la saison de la galette des rois jusqu'au printemps. Donc 110 g de beurre, un peu pour le moule. 4 œufs, sirop d'agave, une cuillère à soupe de rhum ambré, c'est pareil, c'est en option, je pense. Une cuillère à café d'arôme d'amande amère, farine T110, 125 g de poudre d'amande blanche, un sachet de poudre à lever, 3 sachets de sucre vanillé et une pincée de sel. Préchauffez le four à 182 degrés en chaleur tournante. Beurrez un moule à savarin de 23 cm de diamètre. Cassez les œufs dans le bol d'un robot pâtissier. Ajoutez le sirop d'agave, le rhum, l'arôme d'amande, puis fouettez quelques minutes en augmentant la vitesse petit à petit jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse, mousse et double au moins de volume. Pendant ce temps, faire fendre le beurre dans un saladier. Mélangez la farine, la poudre d'amande, la poudre à lever, le sucre vanillé et le sel. Quand les œufs battus ont doublé de volume, y incorporez délicatement le guet enfilé, le beurre quoi. Tout en continuant de fouetter vivement, avec une spatule souple, incorporez enfin à la main le mélange de poudre dans les œufs mousseux, en soulevant la préparation dans un mouvement tournant. Versez la pâte dans un moule, égalisez, ajoutez éventuellement une fève, puis enfournez pour 25 minutes. Laissez un peu tiédir avant de savourer. Ouais, il a l'air bien moelleux, bien bon. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les recettes, mais je vous invite à découvrir par exemple Verger d'été. Ça sera pour l'été, un gâteau nuage à la pêche qui est magnifique avec des fleurs dessus. Il a l'air très crémeux, très bon. Vous en avez aussi, plutôt de teinte estivale, le sable chaud. Trop mignon. Elle a utilisé beaucoup de poésie dans ses titres. Voilà, je vous propose un livre de Marie Tchoka qui s'appelle « Bon gâteau, tout simple, mais qui en jette ». C'est toujours un plaisir de lire ses livres de recettes.
I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long.
Maintenant, je vous présente, pour en finir avec les pesticides, Claude Aubert et François Veyret, édition Terre Vivante. Rien que le titre est déjà très explicite et un vœu pieux et pressant, sortir de cette politique mortifère de l'agriculture intensive et polluante. L'eau est bientôt une ressource rare et vouée à disparaître sans résidus de pesticides et engrais chimiques. La Confédération paysanne défend depuis longtemps la sortie des pesticides et une agriculture plus acceptable pour la génération future. Le pas est à faire, mais cela demande du courage, ce que manque grandement ce gouvernement et les précédents. Il faut une politique ambitieuse de sortie des pesticides à court terme. Le mouvement des coquelicots et maintenant le nouveau PPAS SAFER, PACA, s'articule dans cette direction. Une plus grande attention au niveau du volet environnemental et une agriculture moins polluante et plus à taille humaine. Ayons le courage de changer de modèle agricole. Et ce beau livre en est une parfaite illustration. Donc je vais maintenant vous lire des passages très intéressants. Pour en finir avec les pesticides, Claude Aubert, ingénieur agronome et pionnier de l'agriculture biologique et de l'alimentation saine, auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets. Il est aussi le cofondateur de Terre Vivante. François Veyret est un militant écologiste luttant contre les pesticides de synthèse et pour l'agroécologie. au sein de l'association Génération Future et du réseau Pesticides Action Network d'Europe, avec une préface du sénateur Joël Labbé à l'origine de la loi dite « zéro phyto ». Tout le monde ou presque s'accorde sur ce point, il faut interdire les pesticides. Mais concrètement, comment s'y prendre? N'avait-on pas en 2008 annoncé une division par deux en 10 ans des quantités de pesticides utilisées? Cet ouvrage permet tout d'abord de comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle et avec quelles conséquences. Mais surtout, il détaille les solutions très concrètes qui permettraient d'en sortir et qui sont mises en œuvre en agriculture biologique et biodynamique. Restaurer la biodiversité, rétablir l'équilibre minéral et améliorer l'activité biologique des sols, diminuer la taille des parcelles, associer les cultures, privilégier les variétés résistantes, attirer les innombrables auxiliaires efficaces contre les maladies et les ravageurs. Il montre aussi qu'avec la production intégrée, on peut, sinon supprimer, du moins réduire fortement l'utilisation des pesticides. Enfin, il apporte les témoignages d'agriculteurs ayant franchi le pas vers ce succès, ainsi que des conseils pour le jardinier amateur au potager, au verger ou au jardin d'ornement. Des effets désastreux. La multiplication des traitements, malgré une dangerosité vérifiée. Plus de 450 matières actives de pesticides de synthèse sont actuellement autorisées en Europe et une part en agriculture biologique. Presque toutes les cultures reçoivent plusieurs traitements par an, jusqu'à 35 dans les vergers de pommiers et plus de 13 en moyenne pour la culture des carottes. Blé tendre, 6,9 traitements par an. C'est des herbicides et des fongicides. Le blé dur, 4,9 traitements par an. Herbicides et fongicides, l'orge, 5,9 par an, colza, 7,8, maïs, 3, c'est seulement des herbicides, tournesol, 2,7 traitements par an, c'est des herbicides, la pomme de terre, 18,8 fongicides, c'est énorme, betterave à sucre, 15,9, le soja, 2,6 en arbo, la pomme, 35,9 par an, c'est incroyable. La pêche, 21 traitements, 2. L'abricot, 11,4. La cerise, 10. La prune, 11,7. La banane, 8,1. La clémentine, 6,7. Les légumes, tomates pleine terre, 15. Carottes, 13,6 traitements par an. Poireaux, 10,5. Le melon, 9,5. La fraise pleine terre, 6,5. La salade, 4,2. Le chou, 3,7. Ça, c'est en agriculture conventionnelle. Donc, je vous invite à consommer bio parce que là, sinon, c'est un cocktail de pesticides. Je ne sais pas si ça a beaucoup de valeur de manger des légumes avec 15 traitements par an, quoi. La tomate, par exemple. Vaut mieux la faire soi-même si on a un petit jardin. Ouais, c'est énorme, effarant. La France épand donc chaque année dans ses champs entre 60 000 et 80 000 tonnes de matière active de pesticides. Diminuer cette énorme quantité de pesticides est un résultat affiché par les pouvoirs publics, mais avec de bien maigres résultats. Cette quantité n'a pratiquement pas changé depuis une vingtaine d'années, alors que l'objectif en 2008 était de la diviser par deux en 10 ans. Pesticides, l'impossible baisse. Les agriculteurs vous diront tout ce qu'ils préféraient se passer de pesticides, mais ce qu'ils ne peuvent pas, car ils se traitent, ils perdraient une partie, voire parfois la totalité de leur récolte. Pourtant, jusqu'au XXe siècle, la majorité des agriculteurs n'utilisaient pas de pesticides et leurs champs n'étaient pas toujours envahis de maladies et de ravageurs, même si cela pouvait arriver occasionnellement. Que s'est-il donc passé? Car parmi les ennemis de la culture, il y a bien sûr de nouveaux venus, arrivés de lointains pays. Mais la plupart sont connus depuis longtemps, ont toléré autrefois, sans doute mieux, que les ravageurs commettent parfois quelques dégâts, ce que la course au rendement et les exigences des consommateurs rendent difficilement acceptable aujourd'hui. Mais il ne faut pas voir là les principales causes de l'explosion de l'utilisation des traitements pesticides. Les responsabilités sont à chercher ailleurs, ce qui explique en partie pourquoi une baisse de quantité des pesticides utilisés est si difficile à mettre en œuvre et exige une remise en question totale de notre agriculture. Nous y reviendrons plus loin. L'environnement contaminé par les pesticides. L'utilisation intensive de pesticides en agriculture, la plupart du temps par pulvérisation, conduit à une contamination généralisée des différents compartiments de l'environnement. Les sols sont ainsi totalement pollués par les pesticides. Une étude récente française réalisée par les chercheurs de l'INRA et du CNRS a montré que tous les prélèvements de sols étudiés contenaient au moins un pesticide de synthèse, Pelosi 2021. En tête, un herbicide, la défluvénicant suivi d'un insecticide l'imidaclopride et deux fongicides, la boscalide et l'époxyconazole, détectés dans plus de 80% des échantillons. Ces pesticides de synthèse étaient présents à des concentrations parfois élevées. De même, les bilans officiels montrent que de nombreux pesticides sont détectés dans la plupart des cours d'eau et que près de 80% des 2340 points de mesure des réseaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines sont concernés par la présence d'au moins un pesticide. De plus, pour 47% des points de mesure, au moins une substance dépasse la concentration maximale admissible, 0,1 microgramme par litre, par contre 30% en 2010. Parmi les substances les plus fréquentes retrouvées dans ces eaux, citons l'atrazine, la diméthachlore, le benthazone, le chlortoluron, le glyphosate, mais aussi de nombreux métabolites de pesticides. L'air extérieur est également pollué par les pesticides, on le sait depuis plusieurs années, avec la publication de rapports d'études réalisés par les différentes associations agréées de surveillance de la qualité de l'air en région. La première campagne nationale exploratoire de mesure des résidus de pesticides dans l'air ambiant vient de nous fournir des données plus précises encore grâce à une méthodologie harmonisée sur l'ensemble du territoire national. Dans 50 points du pays correspond à des types de cultures variées, vignes, grandes cultures, arboriculture. Et dans quelques cas, à des situations non agricoles, villes, 75% étaient recherchés pendant une année. Les résultats sont impressionnants. En effet, outre le fait prévisible que l'on retrouve des pesticides dans l'air sur l'ensemble du territoire national, la fréquence des détections de certaines substances est proprement ahurissante. Ainsi, le lindal, pourtant interdit en France depuis 1998, a été détecté dans plus de 90% des analyses de la CNPE. Le glyphosate a été, lui, détecté dans plus de 80% des recherches. Le pendimethaline dans plus de 70%. Le S-métholachlore dans plus de 50%, ainsi que le trihalate. Une enquête réalisée en 2016 par l'association Génération Future a montré que les pesticides présents dans l'air au niveau des zones agricoles se retrouvent ensuite à l'intérieur des habitations et des alentours, jusque dans les poussières des maisons, s'ajoutant aux substances bioticides utilisées par des particuliers eux-mêmes. Ah, voilà, il y en a partout. Donc ce livre, il est aussi accompagné de petites photos, caricatures. Là, par exemple, on en a eu, on a un petit dessin avec « Elles font notre miel sauver les abeilles » de vendeurs de pesticides, Syngenta. Et nous, comment on va faire notre beurre, qui sont en train de râler, parce qu'ils ne peuvent pas appliquer leurs pesticides de partout. Voilà. Donc, il y a des alternatives. Ce livre, justement, vous en propose. Et donc, du coup, bon, on sait la problématique des pesticides, elle est bien développée dans le début du livre. Et on va poursuivre avec des alternatives contre ces pesticides, parce que c'est possible de s'en débarrasser. Restaurer les capacités naturelles des plantes. L'agriculture industrielle, meilleur ami des fabricants de pesticides. Produire plus, tel est le mot d'ordre depuis la Seconde Guerre mondiale. Au départ, pour nourrir la population européenne qui avait beaucoup souffert de privation, ensuite pour nourrir une population mondiale croissante. Le premier objectif a été atteint rapidement, le second en partie, car l'augmentation de la production agricole a suivi celle de la population. Mais le nombre de personnes souffrant de la faim n'a guère évolué. Avec une population mondiale qui continue à augmenter, produire plus demeure un objectif prioritaire. À tort, à notre avis, car nourrir davantage de personnes sans produire plus repose sur deux piliers, changer les habitudes alimentaires et diminuer les pertes. Cela dit, produire plus reste indispensable dans de nombreux pays, où les rendements sont extrêmement bas, souvent 5 à 10 fois inférieurs à ceux de l'agriculture intensive des pays industrialisés. Or, produire dans ces pays, selon l'industrie des semences, des engrais et des pesticides, par l'utilisation de variétés à haut potentiel de rendement, c'est-à-dire capables de produire beaucoup à condition d'être suralimentés, notamment en azote, et protégés par de nombreux pesticides. Norman Borlaug, le principal acteur de la Révolution verte, était le premier à le dire. Avoir de bons blés ne suffit pas. Il faut aussi bien les nourrir, avec beaucoup d'engrais chimiques, ce qui, comme nous le verrons, favorise de nombreux ennemis des plantes. Les plantes malades des pesticides. Le titre de ce paragraphe est celui d'un livre publié en 1980 par Francis Chabousseau, directeur de recherche à l'INRA, de 1960 à 1980. Il montre avec l'aide de nombreux exemples que si les pesticides protègent les plantes contre certains ennemis, ils augmentent les dégâts pour d'autres, qu'ils soient insectes ou maladies. Nous nous limiterons à quelques exemples. Davantage d'acariens, forme hibernante sur 800 mètres de bois, de 2 ans d'une vigne après traitement d'insecticides. D'après plusieurs études, l'utilisation du glyphosate favorise le développement des fusarioses sur les céréales. Or, ces fusarioses produisent des mycotoxines dans le DON, déoxynivalénol, cancérigène, et faisant partie des mycotoxines les plus fréquentes détectées dans les céréales. Davantage de fusarioses sur les céréales désherbées avec du glyphosate. Le traitement au glyphosate a multiplié en moyenne par 2 le niveau de contamination par le fusarium. Dans le cas des non-travail du sol, la contamination est 6 fois plus élevée avec le glyphosate, dont il est cependant difficile de se passer dans ce cas. Cette étude est particulièrement intéressante car elle a été réalisée sur plusieurs années et sur un grand nombre d'exploitations. Par ailleurs, d'après une autre étude, l'utilisation de glyphosate diminue fortement le taux de colonisation des racines. Cultivé en bandes alternées de plusieurs rangs de chaque culture, cela facilite les semis et la récolte mécanique. Les cultures associées présentent des avantages essentiels. Augmentation de la biodiversité, rendements globaux plus élevés, réduction des maladies et des attaques de ravageurs, meilleure utilisation de l'énergie solaire et des ressources du sol, économie d'azote lorsqu'une des cultures est une légumineuse. L'augmentation de production est mesurée par un critère établi à cette fin, la LER, Land Equivalent Ratio, qui détermine la surface supplémentaire qui sera nécessaire pour produire la même quantité sur 2 parcelles séparées, sans association. Par exemple, lorsque la LER est de 1,50, cela signifie qu'il faudrait 50% de surface en plus pour produire la même quantité de cultures non associées. Moins de ravageurs et de maladies. Le trips de l'oignon fait beaucoup moins de dégâts en association avec de l'orge. 6 fois moins de pucerons dans les betteraves à sucre associées avec du maïs. Voilà, c'était pour vous présenter un peu les cultures associées. Ça, c'est une des utilisations qui peut permettre de ne pas utiliser trop de pesticides, d'herbicides, avec une production qui peut être amplifiée par les cultures associées. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce livre, il fait donc des propositions, comme je vous ai lu à la fin. Il parle aussi du label HVE. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une grande mascarade, ça, c'est du n'importe quoi. C'est un peu comme l'agriculture raisonnée, qui est de l'agriculture conventionnelle. Voilà, c'est pareil. Officiellement et activement promu par les autorités françaises, ce label se développe rapidement. Il vise à diminuer l'impact environnemental de l'agriculture. Pour en bénéficier, l'agriculture peut choisir entre 2 procédures. Pour l'option A, il existe un référentiel s'appuyant sur 4 thématiques. Biodiversité, protection des plantes, fertilisation et irrigation. Pour chacune d'elles, un système de points permet de quantifier les améliorations réalisées et à partir de 10 points pour chaque thématique, de bénéficier du label. Pour y avoir accès avec l'option B, il suffit que les intrants représentent moins de 30% du chiffre d'affaires et qu'au moins 10% de la surface soit consacrée à ces espaces naturels. 2 conditions auxquelles il est facile de se conformer sans rien changer à l'utilisation des engrais et des pesticides, d'où la mascarade. Lorsqu'on a des productions à faute de valeur ajoutée, c'est le cas de la vigne, et ce n'est pas par hasard qu'une majorité d'exploitations labellisées HVE sont viticoles. Cette option devrait donc être purement et simplement supprimée. L'option A est un peu plus cohérente, mais le référentiel doit être amélioré pour prétendre être dans tous les cas un réel progrès par rapport au conventionnel. Ce label se rapprocherait alors davantage que les précédentes du concept de la production intégrée. Il paraît difficile que son référentiel mis en vigueur en 2021, il conduise à une baisse très importante de l'utilisation des pesticides et des engrais azotés. Seule une enquête auprès des échantillons représentatifs des exploitations concernées permettrait d'en juger. Perçu comme une concurrence déloyale à l'agriculture bio, ce label est très critiqué par les organisations bio. Par ailleurs, selon le journal Le Monde du 26 mai 2021, dans une note confidentielle remise fin 2020 au ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique, l'Office français de la biodiversité, un organisme public, assure que le label HVO ne présente dans la grande majorité des cas aucun bénéfice environnemental. Voilà, c'est vraiment un label, il faut vous méfier, c'est vraiment pas haute valeur environnementale justement, c'est la propagande qui est mensongère. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment ce livre, c'est un petit livre d'une 100 pages, 150 pages. Et qui est très intéressant, il y a plein d'illustrations, des tableaux pour bien comprendre. Il y a les associations connues pour réduire les dégâts des ravageurs. Par exemple, on a l'aubergine qui va avec le fenouil, le coriandre, le radis, le tagette, les citronnelles. On a la carotte avec l'oignon, le tagette, le coriandre, luzerne, poireau, le chou qui va avec le trèfle, l'ail, la tomate, l'oignon, le basilic. Voilà, il y a les cultures associées qui sont bien présentées, les alternatives aux pesticides, et c'est surtout l'urgence de sortir des pesticides, qui est un fléau environnemental et qui ne nous permettra pas d'avoir de l'eau encore longtemps si on continue nos pratiques agricoles désastreuses. Voilà, donc consommez bio et finissons-en avec ces pesticides. Donc pour en finir avec les pesticides, de Claude Aubert et François Veillerette, édition Terre Vivante.
We spoke of what's and when, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago.
On va finir avec Je crée mes savants naturels, un beau livre pour la création des savants écrit par Léane et Sylvain Chevalier, édition Terre Vivante, collection Facile et Bio. Voilà, c'est un livre qui est pas cher, 14 € et qui vous permettra de faire de la savonnerie à froid et c'est à la portée de tous. Il y a 30 recettes simples et faciles à réaliser à partir d'ingrédients 100% naturels. Pour créer des savons originaux pour toute la famille et tous les usages, dans le respect de la santé et de la planète. Avec aussi toutes les informations nécessaires sur les propriétés cosmétiques des différents constituants, une table de saponification et la liste des colorants et des parfums naturels à utiliser. Léane et Sylvain Chevalier sont les pionniers de la savonnerie à froid en France. Depuis 2001, leur entreprise familiale Aroma Nature fabrique une gamme exclusive de savons naturels et organise des stages pratiques de fabrication. Les photographies, elles sont prises par Pierre Deschamps, photographe, monteur et réalisateur audiovisuel. Donc la mode est offerte soi-même et le monde des savons offre un panel de choix large pour toutes les peaux et toutes leurs particularités. Comme l'alimentation, revenir à des produits doux et naturels est bienvenu pour éviter les intoxications ou les allergies à cause des produits toxiques. Et tous ces emballages en plastique qui inondent nos salles de bain, les savons permettent de les réduire ce fléau. Léane et Sylvain Chevalier sont des pionniers en la matière. Et on va découvrir du coup des belles recettes qu'ils nous proposent. Mais avant d'arriver aux recettes, je vous propose déjà qu'on parle de la fabrication étape par étape, parce que c'est quand même de la précision, on ne peut pas s'improviser savonnier. Donc il faut suivre des étapes scrupuleusement et faire attention parce que ça peut être dangereux, on utilise aussi de la soude qui peut être toxique, donc il faut être prudent. La fabrication étape par étape. Les instructions données ci-dessous décrivent toutes les étapes nécessaires à la fabrication des recettes présentes dans ce livre. Suivez-les à la lettre en prenant la recette du savon de base pour vous faire la main. Préparation de votre plan de travail. Nettoyez votre plan de travail, notamment si vous fabriquez votre savon dans la cuisine, et sortez tout votre matériel. Préparez votre moule à savon, chemisez-le avec du papier sulfurisé si nécessaire. Préparez de la solution de soude caustique. Pesez l'eau dans votre pichet doseur et placez-y une cuillère à soupe en inox. Mettez votre tablier et vos gants et éventuellement votre masque à cartouches. vos lunettes de protection, puis pesez la soude dans un récipient en verre ou en plastique muni d'un bec verseur. Dans un endroit bien ventilé, commencez à verser doucement la soude dans l'eau, tout en remuant. Doucement et régulièrement jusqu'à complète dissolution. Le mélange produit quelques vapeurs pendant 2 à 3 minutes et se met à chauffer jusqu'à 70 degrés, à 90 degrés. Placez votre thermomètre dans le récipient pour surveiller la température. Préparation des graisses et des huiles. Pendant que la solution de soude refroidit, sortez toutes les graisses et les huiles. Commencez par peser les graisses solides ou demi-solides. Chauffez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient presque fondues. Retirez hors du feu. La casserole continue à chauffer hors du feu. Les derniers morceaux de graisse disparaissent rapidement. Attention, n'oubliez pas vos huiles sur le feu pour ne pas perdre une partie de la propriété ou provoquer un incendie. Cela arrive plus vite que vous le croyez, quand par exemple vous répondez au téléphone. Pesez maintenant les huiles liquides et versez-les dans la même casserole, mélangez bien au fouet. Placez un thermomètre et laissez refroidir votre mélange d'huile à la température souhaitée. Préparation des additifs. Pendant que les deux mélanges, la soude d'un côté et les huiles de l'autre, refroidissent, pesez vos huiles essentielles dans un récipient en verre. Couvrez-le avec du film alimentaire pour ne pas laisser les huiles essentielles très volatiles s'évaporer. Préparez aussi les autres additifs et mettez-les de côté. Afin d'éviter toute erreur, pensez à remettre votre balance à zéro après chaque pesée. Assurez-vous aussi que les piles électriques de votre balance sont en bon état. 1 litre d'eau est équivalent à 1 kg. 1 litre d'huile d'olive à 920 g. Après, il y a le déroulé, la réalisation du savon. Donc le savon de base, comme il disait. Et après, je vous propose, pour continuer, de vous parler d'une recette ou deux précises qui est proposée dans ce livre pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, enfin l'eau à la salle de bain, on va dire, plutôt, pour se laver. La divine églantine. Les coques de baie d'églantine créent un joli effet visuel dans le savon. Par les huiles essentielles employées dans cette recette, le bouquet sucré et floral du savon est sans aucun doute très féminin. L'utilisation de l'huile de rose musquée, associée à un pourcentage élevé d'huile d'olive, classe ce savon en haut du tableau pour la toilette du visage. 150 g d'huile de coco, 80 g de beurre de cacao, 710 g d'huile d'olive, 60 g d'huile de rose musquée, 132 g de soude caustique, 310 g d'eau, une cuillère à soupe de coque de baie d'églantine moulue, 8 g d'huile essentielle de patchouli, 16 g d'huile essentielle de rosalina, 24 g d'huile essentielle de bigarade, c'est du citrus aurantium. Pesez la soude, puis la dissoudre dans 70 g d'eau, mettre à côté. Faire fondre la graisse de coco et le beurre de cacao, puis ajouter les huiles d'olive et la rose musquée. Pendant que la solution de soude et les huiles refroidissent, pesez les huiles essentielles et moudre les coques d'églantine. Puis les mélanger ensemble. Quand les deux mélanges atteignent environ 45 degrés, qu'il vous faudra quand même des thermomètres et un équipement pour prendre les degrés, voilà, des mélanges, versez la solution de soude dans les huiles, bien mélangées jusqu'à la trace. Incorporez les huiles essentielles et les coques moulues, bien mélangées, puis versez dans le moule de votre choix. Divine églantine est magnifique, il est rouge un peu, la couleur églantine. Et voilà, c'est principalement pour le visage. Après, il y en a d'autres, il y a le savon du jardinier, il y a la lavande superstar, donc ça c'est plus de notre région justement. Vous avez sur la corde à linge, donc elle joue un peu aussi avec les mots, l'écrivaine, enfin les écrivains. Voilà, et je vais poursuivre avec une recette pour les hommes, puisque j'en ai fait une pour les femmes. Passons à une recette pour les hommes et pour leur visage. Savon à barbe, 6% sur gras. Par rapport aux produits classiques de rasage, notre savon à barbe ne manque pas d'atouts. Moins agressif pour la peau, écologique, car totalement biodégradable et dénué d'emballage. S'usant très lentement et donc économique. L'essayer, c'est l'adopter. Le secret, une peau d'argile, un peu d'argile blanche, très fine, favoriser la glisse du rasoir. Quelques allers-retours de savon sur la barbe mouillée. Une friction manuelle ou un blaireau pour les inconditionnels. Pour faire un peu de mousse, et vous voilà prêt. À raser de près, le parfum très complexe est à base d'huile essentielle, dont celle d'une plante des Caraïbes, la baie de Saint-Thomas, souvent utilisée dans les cosmétiques masculins. 290 g d'huile de coco, 100 g de beurre de karité, 20 g de cire d'abeille, 500 g d'huile d'olive, 50 g d'huile de ricin, 40 g d'huile de cartame, 139 g de soude caustique, 340 g d'eau, 4 g d'huile essentielle de patchouli, 8 g d'huile essentielle de gingembre, 12 g d'huile essentielle de la baie de Saint-Thomas, 16 g d'huile essentielle de citron et 9 g d'argile blanche. Pesez la soude puis la dissoudre dans 340 g d'eau. Mettre de côté. Faire fondre la graisse de coco avec le beurre de karité et la cire d'abeille. Puis ajouter les huiles liquides, olive, ricin, cartame. Pendant que la solution de soude et les huiles refroidissent, pesez les huiles essentielles et l'argile. Bien dissoudre l'argile dans une cuillère à soupe d'eau. Quand les deux mélanges atteignent environ 45 degrés, versez la solution de soude dans les huiles. Avant de passer au mixeur, ajoutez l'argile diluée, bien mélangée jusqu'à la trace. Incorporez les huiles essentielles, bien mélangées et versez dans le moule de votre choix ou des bols individuels pour les utilisateurs de Blaireau. Voilà, donc il y a des belles photos qui donnent aussi vraiment envie de faire ces beaux savons. Vous en avez de toutes les couleurs aussi. Il y en a qui sont comme petits mousses, qui sont verts et blancs, très jolis. C'est à base d'huile de coco et il y a des algues sèches et de la spiruline. Bon, après, il y a chocolat liégeois, autant vous dire, on dirait une pâtisserie. C'est magnifique, c'est noir et blanc, du coup, et c'est très joli. Et ça, c'est le savon bicolore facile à faire. Il est composé de deux recettes réalisées l'une après l'autre, à peu de temps d'intervalle, teintées avec du chocolat. Oui, quand même, du chocolat. La partie sombre constitue les deux tiers de la recette complète et contraste fortement avec la partie non colorée. Certes, il s'agit d'une fantaisie de savonnière gourmande et le choix des couleurs reste un bon vouloir de votre humeur. Mais sachez que le délicat parfum épicé de cannelle de cette barre liégeoise est un vrai délice de comptoir. Donc, partie colorée au chocolat, c'est 133 g d'huile de coco, 67 g de beurre de cacao, 400 g d'huile d'olive, 67 g d'huile de tournesol, vous avez 90 g de soude caustique, 130 g d'eau, 103 g de lait de soja, une cuillère à café de cacao en poudre, 5 g d'huile essentielle en cannelle, 15 g d'huile essentielle d'orange douce. L'emploi d'un lait de soja propulse cette création au rang du lait, du savon au lait pour les végétaliens, bien sûr, mais on peut aussi les faire avec, je pense, du lait en poudre ou du lait frais, quoi. Voilà. Il y a d'ailleurs un savon très lait que je pense que c'est un des premiers que je ferai, qui a l'air très intéressant. C'est du savon à base de lait de ferme. Voilà. Avec moi, je ferai avec du lait de chèvre, évidemment. Et c'est très bon pour la peau. Et là, c'est de l'huile de coco, de l'huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol, soude caustique, eau et lait de ferme au choix. Voilà. Donc ça, c'est ma préférence. Voilà, bon, ben ce livre est très intéressant, très beau, avec des magnifiques couleurs et des magnifiques savons. Ça donne vraiment envie de se lancer dans cette création. Donc voilà, je vous propose le livre « Je crée mes savons au naturel » Léane et Sylvain Chevalier, édition Terre Vivante. Et il vaut 14 euros, donc il est accessible au budget, vous ferez des économies puisque vous n'aurez plus besoin d'acheter vos cosmétiques, enfin vos savons. Vous les ferez chez vous. J'écrirai des soleils, émission littéraire sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.